Et boum !
Les détricoteuses.
Elle m'évoque des sons soit imaginaires, soit qui existent pour de vrai.
Et c'est vrai, on est dans les détricoteuses.
Un espace ouvert et en évolution que je parcours.
Et nous allons écouter maintenant une création radiophonique.
C'est une parure que je porte, non pas pour me cacher, mais justement pour me révéler.
Et que c'est passible d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende.
Comme si elle parlait trop, alors que le temps moyen de discours d'une femme se situe entre 3 et 10 secondes.
Je me dis, mais c'est trop con de pas pouvoir le faire, juste parce que t'as des seins. Moi, je m'en fous de mes seins, quoi.
Non pas que votre avis soit pas intéressant, non, non. Il raconte plein de choses, votre avis.
Les Détricoteuses,
une émission menstruelle
et participative,
tous les premiers et troisièmes vendredis du mois
à 19h sur JetFM 91.2.
C'est un attentat radiophonique. Bonjour, bonjour, bienvenue dans les Détricoteuses.
Hello.
Il y a déjà de l'ambiance sur le plateau, vous avez vu. Il est 19h, vous êtes sur JetFM 91.2 et ce soir, on détricote le mot beige. Très sexy, n'est-ce pas ?
T'as mis cette veste ?
Oui. Ah ! Une veste blanc et cru, ce qui se rapprochait du beige. On est un peu... Non, on n'est pas tout habillé en beige, mais on a tenté quelque chose autour de la table. Eh bien, justement, qui est autour de la table ? Eh bien, Marianne !
Hello, salut !
On est contente de t'avoir parmi nous, ça fait longtemps. Valentine à la technique.
Coucou !
Et Laure.
Bonjour.
Et Perle.
Bonsoir.
Et Jordan, qui est à distance
qui
et
nous
qu'on
écoute,
va appeler tout à l'heure.
J'imagine.
Oui, j'espère qu'elle nous écoute.
Qu'on va pas appeler, mais qu'on va avoir par là.
Ah oui, qu'on va avoir. Oui. Tout à fait, qu'on va entendre. Le beige. Mais le beige, c'est pas vraiment la couleur des BG. Ça donne envie de bégère. Tout le monde se fond dans la masse, même les bourgeois, mais seulement quand les silhouettes se ressemblent. Car il y a des beiges neutres, plutôt beige clair, mais bonjour la norme figée. On s'en branle. Dans mon cortège, d'autres corps, d'autres bijoux. Aucun stratège, pas de calcul de score. Singularité comme un arpège forme un accord, comme un florilège qui par son ensemble nous fait monter dans le rang tel un major. Ni teinture, ni blanchiment, le beige est colorblind, natural mind, effaçons vite les couleurs. Paraît que beige, c'est la chaleur. Jennifer Padjemi le dit dans son livre « Selfie ». Le minimalisme tient ses origines dans des préceptes racistes et eugénistes consistant à épurer, éviter les ornements visibles au profit d'un goût supérieur. Un goût occidental. Capitaliste nous rend fade. Toxic and sad. Je parle de mon point de vue, peut-être qu'ailleurs que chez moi, le beige est clinquant. Mais est-ce qu'il a des nuances ? Maybe, mais pas 50. Moi, je veux que tout claque, vive les couleurs. Bon, c'est un peu faux parce que je ne suis pas habillée en couleur aujourd'hui.
Ouais.
Fais péter le pantone, monte le son dans tes écouteurs. Ce soir, on fait parler les fantômes.
Oh, 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 oh.
Voilà, le beige est si inspirant qu'on en fait des slams.
La meuf n'arrive pas à être beige, même quand elle parle de beige, elle est flamboyante. Quoi.
Et bon, écoutez, on va commencer à tirer les fils de ce mot si inspirant. Et si clinquant, avec le sujet de Laure, qu'on va écouter tout de suite, parce que tu ne souhaites pas l'introduire, et puis on va en parler.
Parfait.
On verra ce que ça donne.
Oui ?
Allez, on se lève avec toute l'énergie qu'on a. C'est un beau sketch.
Quand j'étais adolescente et que j'avais du temps libre, entre les cours, les activités, les amis ou la déprime, je le passais à feuilleter des magazines féminins. J'en trouvais toujours chez ma mère ou chez ma grand-mère. Certains dimanches matins, après avoir acheté du pain, je prenais en passant un petit Hockey Podium ou Jeune et Jolie, ou même le Elle, Biba ou Cosmo. Essentiellement, je lisais des articles qui concernaient la beauté, le corps, comment avoir un ventre musclé en 3 mois, ou comment trouver l'amour et le garder. Et aussi les pages mode et style. Comment porter le beige, aka la couleur la plus tendance et la plus chic de l'automne. Exit le noir. Cet automne-hiver 2021-2022, la couleur la plus tendance sera le beige.
Quand j'étais adolescente, vers 14 ans, je me suis mise à porter du noir, beaucoup de noir, au grand désespoir de ma maman. Parce que j'ai porté donc le noir pendant longtemps. Ma maman me disait que tu as l'air d'un corbeau, elle qui n'aimait pas du tout le noir. Donc ça a duré quand même quelques années. Ensuite, j'ai porté du bleu marine. Du bleu marine avec toujours un corsage blanc en dessous parce que je trouvais que c'était très élégant.
Quand j'étais petit, on m'appelait Monsieur Multicolore parce que je portais plusieurs couleurs en même temps.
Est-ce que chaque couleur a un peu une signification, tu penses ?
Le bleu, c'est ma couleur préférée. Le rouge aussi. Des fois, j'aime bien aussi mélanger les deux. Mais sinon, après, ça n'a pas vraiment une signification pour moi autre.
Le noir, c'est quand t'as la flemme.
La flemme. C'est quand je vois, bah, je porte. Et pas dire ma copine parce que j'en ai plus. C'est pas grave. Des choses qui arrivent. Bah, par exemple, mon ami à moi, mon ex, était vraiment axé sur la mode, tout ça. Et j'aimais bien parce que. Bon, parce que c'était en fait mon côté mode, en fait, c'est son côté mode en fait que j'aimais, parce qu'elle était. Elle était modèle photo. Elle était modèle photo pour des événements, tout ça. Et après, quand c'est mes amis, tout ça, peu importe, ils peuvent porter ce qu'ils veulent, je m'en fiche, parce que c'est vraiment pour la personne. C'est vraiment en fait pour accéder à la personne en fait, avec qui je parle, pas pour la mode. La mode, c'est secondaire.
Le beige porte aussi en lui toute l'idée du vêtement de travail et de l'uniforme militaire. Ce sont souvent des pièces qui viennent de l'univers du masculin et qui sont adoucies en beige pour le féminin.
Comment tu t'habilles ? Bon, c'est ça, parce qu'au début, moi, j'étais contre les uniformes, mais vu qu'après, j'ai grandi avec du recul et j'ai vu en fait ce qui se passait, vas-y, le mieux, c'est que tout le monde ait un uniforme, comme ça, personne ne critiquera les gens. Parce que juste, moi, j'ai une personne, c'est normal en fait, ce qu'elle a fait dans sa vie.
Oui, mais
Après, dans la cuisine, ils ont aussi le.
Mais c'est pas un uniforme, c'est une tenue. C'est une tenue, ça ne s'appelle pas. C'est un uniforme que pour les pompiers, les policiers.
Est-ce que tu as déjà porté du beige ?
Oui. Ouais, quoi. J'en avais des t-shirts, bon là je ne l'ai plus parce qu'on frère me l'a volé, mais je portais avant quand c'était du beige.
Je porte beaucoup en ce moment du vert. Et couleur blanc, le blanc, qui n'est pas forcément considéré comme une couleur, et l'ivoire.
Pas une personne âgée avec du bleu ciel. Du bleu ciel ou du rose comme ma veste. Voilà. Et sinon, après, chacun est libre de mettre ce qu'il veut.
Le rose que moi j'ai, ça va ?
Oui, ça va. Oui, il est très bien. Après, le rose vif, le rose bonbon, comme moi, non. Enfin, ça va pas à tout le monde.
Tu sais, moi j'avais lu que. Genre le beige, le marron, le marine, tout ça, c'était des couleurs qu'on pouvait pas mettre quand on était jeune.
Non, moi je suis contre ça. Non, moi je suis contre. Pour moi, un jeune qui met du beige, du bleu marine, c'est une couleur qui va à tout le monde et à tout âge. Pour moi, c'est des couleurs qui sont universelles.
Est-ce que maintenant que j'ai 40 ans, tu penses que je peux mettre du beige ?
Oh, bah si ça te dit. Mais honnêtement, le rouge te va bien. Hein. Quand j'étais jeune, ça a été la mode du court, des jupes courtes. Et bon, ce n'était pas toujours bien vu non plus. Donc, je ne suis pas tellement étonnée maintenant d'entendre des réflexions aussi. Mais je trouve que les jeunes ont raison de ne pas se fier à ça, de ne pas tenir compte de ça.
Fini tous ces miroirs. Et allez vous faire voir, je m'habille comme je veux. À vous user les yeux, jugement à la poubelle. Enfin je me sens belle, le temps a été long. pour faire communion. Et je sens une colère à faire trembler la terre. Je fais de la chanson. Pourquoi vous me parlez chiffon?
De retour sur le plateau de JTFM 91.2, vous êtes avec nous les détricoteuses et on vient d'entendre la création de l'or. Comment s'appelle-t-elle cette création?
Je l'ai appelée « Beige et mon uniforme », je crois. Okay. Je crois que c'est ça.
Merci. Est-ce que c'est ta première création?
Eh bien, c'est ma deuxième création finalement, parce que la première, je l'ai faite dans le cadre d'un stage. Animé, conduit, mené par Marianne à côté de moi. Alors, c'était pas du tout pour
t'as
ça.
C'était
extrêmement consanguin, cette émission.
Je tendais la perche. Non, mais pour te dire que c'est super, t'as pris du plaisir à faire cette création.
Oui, oui, oui.
Ouais.
Je prends beaucoup de plaisir à interviewer les personnes. Enfin, l'interview, c'est quelque chose qui est un super moment, en tout cas, de rencontre, en fait. Pardon. Et voilà, après, le montage, c'est un peu plus difficile. Voilà, des fois, je m'arrache un peu les cheveux. Et puis là, j'entends aussi un peu les défauts du mixage. Voilà.
Ne sois pas trop autocritique, c'est cool. Et qui sont les personnes, du coup, que tu as interviewées?
J'ai interviewé Junior, qui est un jeune qui a 19 ans, je crois, et avec qui je fais du théâtre en atelier. Et puis, ma belle-mère, qui a presque 80 ans. Voilà, et j'avais envie de faire rencontrer les générations. Et voilà. Et aussi peut-être les univers, parce qu'ils ont pas ils viennent pas, ils grandissent pas dans le même environnement et avec les mêmes repères, les mêmes codes.
Et t'es partie donc avec cette idée qu'il fallait avoir un âge particulier pour porter telle et telle couleur, et qu'est-ce que tu as trouvé comme réponse avec ces personnes-là?
En fait, le mot beige m'a vraiment fait penser à des articles de magazines que j'avais lus quand j'étais jeune et qui me disaient quelle couleur je devais porter ou pas. Donc, je suis partie juste avec cette idée-là. Donc, j'ai farfouillé pour essayer d'avoir des articles. Et effectivement, bah, on trouve de tout. Hein, voilà, année après année, en fait... Il y a des moments où il faut porter le beige, des moments où il ne faut pas porter le beige, des moments où effectivement ça raconte quelque chose, ou alors ça raconte autre chose. Enfin voilà, tout est... voilà. Et donc, et après, j'ai trouvé cet article qui disait que le beige pouvait être souvent utilisé pour effectivement des vêtements masculins qu'on voulait un peu adoucir, etc. Et voilà, et ça résonnait avec un débat qu'il y avait eu aussi sur l'uniforme à l'école. Mm-hmm. Donc...
Et donc, tu es allée dans une école? On entend des voix sous un préau, c'est des jeunes que tu as rencontrés
Les jeunes qu'on entend, c'est les jeunes qui sont en atelier avec moi, qui étaient en atelier avec moi, dont Junior, que j'ai interviewé.
Donc, parce que toi, tu es comédienne et tu mènes des ateliers de théâtre, c'est ça?
Ouais.
Et donc, est-ce que ce Junior est représentatif des hommes c'est difficile à dire
des
comme
jeunes
ça,
hommes
des jeunes hommes, non mais parce qu'en fait moi j'ai cette image quand je passe devant l'arrêt de tram à côté de chez moi, de voir des attroupements de jeunes collégiens tout en noir, ça me déprime et donc là il raconte que sa couleur préférée c'est le rose et le bleu et le rouge, enfin en fait
Junior en fait il s'habille, on voit qu'il choisit ses vêtements et les couleurs, etc. Donc je ne saurais pas dire, dans l'atelier, il y a des jeunes qui sont un peu en gris ou en noir et d'autres qui ont des couleurs. Donc je ne saurais pas dire exactement.
Mais est-ce que c'est pour ça que tu l'as choisi, justement, Junior? Est-ce que c'est parce que tu trouves qu'il se démarque de la foule des autres étudiants
Non, j'ai proposé qui a envie que je l'interviewe après l'atelier.
Et comme par hasard, c'est lui qui a répondu.
Et comme par hasard...
Le libre d'esprit.
Et comme par hasard, il a bien voulu répondre et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi branché mode, en fait.
Mais du coup, moi, je me suis posé la question de pourquoi je voyais autant, si peu de couleurs sur les hommes en général. Bon, je fais peut-être une fixation, mais j'ai regardé la disparition des couleurs en général dans la société. Et en fait, il y a le fameux historien des couleurs, la Pastoureau, qui raconte qu'il y a une espèce de... Il appelle ça la grande renonciation masculine. Au 19e siècle, les hommes ont arrêté de mettre des couleurs. En fait, avant, ils mettaient du rose, du rouge, du violet, des parures, des broderies. Et 17-18e, l'époque industrielle, ils ont commencé à mettre des couleurs sérieuses, quoi, qui faisaient plus masculines. Enfin, en tout cas, à nos yeux d'aujourd'hui.
Comme les voitures dans les années 2000.
Ouais, qui sont toutes grises, blanches et noires.
Bon, à l'époque coloniale, il y avait beaucoup de beige. Mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler avec Perle, peut-être. Avant des sujets.
Ok.
Mais c'est vrai, mais le beige, moi, ça m'évoque l'ennui. Et j'en parlais à... Enfin, je dis pas ça, bah, on est toutes les deux habillées en beige.
Bah, moi, j'ai fait exprès. Je n'ai rien de beige chez moi. Et j'ai demandé à ma mère de me prêter ce pull. Pour être avec
maman de Laure.
Mais j'en ai parlé à des collègues hier et j'ai une collègue, gros big up à elle, qui m'a dit qu'elle avait un pote qui lui avait dit que sa couleur préférée était le beige et qu'elle avait trouvé ça chiant à souhait et qu'elle s'était dit bah ouais, il a pas de personnalité ce mec en fait. Donc c'est pour ça.
Est-ce qu'on peut juger les gens couleur. Sur leur goût de Mais couleur
bah. Le beige, c'est particulier.
C'est clivant.
À quel point les goûts sont induits aussi? Tu vois, tu parlais des hommes qui tout à coup changent complètement la colorimétrie pour aller vers deux, trois couleurs maximum ou aujourd'hui les voitures. Enfin, clairement, comme tu le disais, il y a aujourd'hui la palette des couleurs qu'on a autour de nous, elle est hyper, hyper réduite. Et tu parlais des ados devant les lycées. Enfin, tous ont le jean bleu plutôt clair, le t-shirt noir et c'est effectivement un uniforme qu'ils se sont imposé, quoi.
Après,
donc
dans
le goût,
magasins,
il est où là-dedans?
Dans les magasins pour enfants, il y a un rayon garçon un peu tristoun quand même et un rayon fille un peu plus funky, quoi, en termes de couleurs et de choix.
Avec les paillettes.
Un peu plus pop. Mais est-ce que, sans spoiler ton sujet, parce qu'il ne traite pas vraiment de ça, mais tu parles quand même de ces beige moms?
Ah oui.
Enfin, tu l'évoques. Tu l'évoques vite fait dans ton sujet. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des beige moms?
Non, mais Jordan en parle aussi dans son sujet.
Ah oui, oui, c'est vrai, elle en parle dans son sujet. Bah, peut-être qu'on aura le temps de redévelopper, mais il y a quand même cette question de orienter sa tenue vestimentaire pour envoyer un message lissé et éviter les couleurs. Et le patchwork.
Ouais, mais je lisais que c'était beaucoup aussi lié à la standardisation, lié avec l'esprit de Apple, enfin toutes ces grandes entreprises qui sont très clean, blanches, épurées, minimalistes.
Et qui doivent plaire au monde entier, en fait. Voilà. Donc qui cherchent une
Quel
thématique qui va.
Merveilleux.
Ouais, qui est uniformisée complètement.
Comme les voitures.
Et ta voiture, elle est comment ta voiture?
Elle est blanche. Mais je ne l'ai pas choisie, je l'ai prise au cas.
Oui. Mmh. On ne choisit pas.
Mais la voiture blanche, c'est moins cher que les autres voitures.
Oui, ça se vend mieux surtout. Parce que,
bah parce que c'est
les
moins
couleurs,
cher.
Les voitures de couleur, apparemment, se vendent très mal. C'est trop fantaisiste. Ça manque de sérieux.
Bah oui, c'est enfantin ou féminin, les couleurs. C'est bien connu.
C'est ça.
C'est triste d'être un garçon, alors, on est donc.
La conclusion, j'adore.
Alors que Junior est super.
Junior adore le rose.
Bah oui.
Et ta belle-mère aussi. Enfin, c'est quand même chouette d'avoir deux générations là, qui, pour le coup, vont
par
contre cet univers.
Voilà, il ne voit pas des vieilles personnes habillées en bleu ciel. Par contre, ça ne lui convenait pas.
Ah, mais ça, c'est génial. Moi, j'adore cette théorie. Ah, par contre, non, les personnes âgées en bleu ciel, non.
Finalement,
c'est too much. J'adore.
Bah, ça fait un peu les yettes. Enfin, je me souviens plus. Il explique pourquoi c'est pas yettes. Possible.
Le bleu ciel.
Les yettes. Le bleu ciel.
Bah oui. Non, c'est pâle, quoi. C'est pastel.
Les pastels, le rose bonbon, le bleu ciel, ils ne voyaient pas une personne âgée ou même quelqu'un comme moi habillée comme ça.
J'adore.
Jeune comme toi.
Qui fixe ces règles? On ne sait pas. Eh bien, merci beaucoup, Laure.
Avec plaisir.
Et bravo pour cette créa. Eh bien, on va enchaîner avec ton sujet, Perle, que nous allons écouter tout de suite.
Pour certains, le beige, c'est l'élégance. Un trench Hugo Boss, une écharpe Burberry, la saharienne d'Yves Saint-Laurent, tenue coloniale de safari taillée pour le corps des femmes. Dans mes souvenirs, le beige, c'est la couleur de la Dodge Chrysler de mon grand-père, qui quadrille les avenues de Minneapolis et de Saint-Paul. C'est la couleur de la moquette de son salon où mes cousines et mes cousins ont renversé leurs crayons.
I grew up kind of hating beige and feeling like it was everywhere in the Twin Cities.
Je ne me rendais pas compte que Lara avait grandi en haïssant cette couleur omniprésente dans la ville. C'est la nuance que nous choisissions pour dessiner nos couleurs de peau. Entre le beige et le marron, il n'y a qu'une différence de ton. Le beige, c'est la couleur des chemises brunes, avant même qu'elles ne deviennent SS. Pour certaines, le beige, c'est un refuge. Beige moms. Une trend des réseaux sociaux qui apaise des mamans surchargées. C'est la couleur du siège auto de René Nicole Good, par son sang maculé. Dans le Minnesota, on est poli.
I didn't like it. I felt like beige represented a kind of passive conformity.
Quand nous étions enfants, moi aussi, cela me mettait mal à l'aise. C'était suspect, autant de conformisme.
People didn't raise their voices.
Il n'y avait jamais un mot plus haut que l'autre.
They didn't stand up for things they felt.
Les gens ne se battaient pas pour leurs idées.
They didn't want to stand out as individuals.
Ne surtout pas se faire remarquer, se fondre dans la masse. Et pourtant, ma cousine Lily ne sort plus sans son sifflet orange. Et elle me raconte.
I wear a bright orange whistle on the zipper of my jacket every time I leave the house. The last thing that Alex Preddy said before he was shot was, "Are you okay?"
Le beige, c'est la couleur du chino d'Alex Preddy. Jeté au sol puis exécuté, alors qu'il apportait son secours à une femme que des agents de ICE venaient de gazer.
He asked the woman whom he was trying to protect from the pepper spray if she was okay.
Lily est professeure de collège.
Kids are terrified. We have lots of reports of kids having nightmares.
Les élèves font des cauchemars. Ils sont terrifiés à l'idée que l'on rafle leurs parents.
My school has had about 30% of students not attending because they are afraid to leave.
Certains n'osent même plus quitter leur maison pour se rendre à l'école. Le 8 janvier, des gaz lacrymogènes étaient lancés devant un lycée. Ces derniers mois, plus de 30 000 citoyens du Minnesota ont suivi une formation pour devenir observateurs du respect des droits constitutionnels.
Get out of this church! I don't know what God you worship, maybe an orange one, but my God is love! This book says welcome the stranger!
On my way to an anti-fascist meeting that was being held in secret.
En se rendant à une réunion antifasciste qui se tenait dans le sous-sol d'une église.
I passed a car with its doors open.
Lily est passée devant une voiture abandonnée, les portes ouvertes.
Abandoned cars are an indication that someone has been taken.
Une voiture abandonnée, c'est le signe que quelqu'un a été emmené par ICE.
They just leave the car running in the middle of the road.
Elles sont laissées là, moteur en marche, au bord de la route.
I am now part of a secret neighbors group that is organized to drive around and look for ICE agents.
Alors que Lily intègre des groupes clandestins pour pister les voitures des agents de ICE, Lara a changé son regard sur l'uniformité des gens du Minnesota.
I really have come to think of beige differently in recent weeks.
Ils font corps, ils collaborent et résistent.
We rise up in community and in collaboration with others in resistance.
Dans le Minnesota, les hivers sont polaires, de 5 degrés à moins 30.
After last night's snowstorm, now the roads are covered with ice, and it makes the car even louder.
Lily m'a laissé un nouveau message depuis sa voiture, en pleine tempête de neige.
A Hmong man who's quite old, who was taken in his
un homme âgé, issu du peuple Hmong, ne portait que ses crocs et son caleçon lorsque les agents de ICE l'ont emmené.
They're going into people's homes now. People can be detained.
Désormais, les personnes sont rafraîchies à domicile. Ils ne leur laissent pas le temps de s'habiller. Ils leur confisquent leur téléphone.
When people are detained in Minnesota, the first place they're brought is the Whipple
Building. Dans Minnesota, le Whipple Building est le principal centre de détention.
When you get released from the Whipple Building, they just have you walk out in whatever you're wearing.
Ceux et celles qui en sont libérés sont jetés dehors, dans la même tenue qu'à leur arrivée, sans moyen de communication.
So there's a new group that is out.
Il y a donc un nouveau groupe de citoyens qui patientent devant le centre de détention avec des vêtements chauds qu'ils ont collectés, prêts à réchauffer les victimes de la rafle et à les reconduire chez elles. Ojibwe, Sioux, descendants d'esclaves noirs ou de migrants scandinaves, immigrés somaliens, mexicains ou birmans, face aux tenues de camouflage beige des agents de la terreur, les habitants du Minnesota chantent leur Adelphité.
Vous êtes toujours dans l'émission des Détricoteuses sur Jet FM 91.2 et nous tirons les fils du mot beige et nous venons d'écouter le sujet de Perle. Il y a beaucoup de choses dans ton sujet. Merci beaucoup pour ce que tu nous amènes là. Donc beige, c'est aussi la couleur de l'insigne du blason de ICE. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer, tu pars d'abord des tenues en lien avec la vision coloniale, enfin voilà, l'uniforme colonial, etc., l'uniforme politique, et puis après tu digresses sur cette question de ICE.
Oui, alors, en fait, moi, quand j'ai eu la thématique beige, c'était 3 ou 4 jours après l'assassinat de René Nicole Good. Donc par des agents de ICE, qui est l'agence de contre l'immigration, on va dire, donc qui piste les gens partout dans le pays et qui les envoie dans des camps de détention, pour faire très simple. Une agence qui existe depuis 2004, mais qui a été grandement renforcée par Trump ces dernières années. Et donc forcément, quand j'ai appris que le thème allait être beige, ben moi, j'avais que cette couleur en tête. Je faisais le lien avec les régimes totalitaires, les chemises brunes des nazis qui, dans mon souvenir, étaient plutôt beiges, la saharienne. Enfin, voilà, ce que j'explique effectivement au début, ce que j'évoque en fait au début. Donc, pour moi, c'était plus le cheminement de ma pensée en fait que j'exprimais par ces différents paliers, quoi. Depuis le vêtement. Jusqu'à qu'est-ce que ça veut dire en termes de couleur de peau aussi, parce que là vous ne le voyez pas, mais il se trouve que j'ai une peau qu'on qualifie de très blanche et qui en vrai n'est pas blanche. Elle est évidemment, elle a d'autres couleurs et notamment le beige. Et voilà, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui aux États-Unis cette couleur, qu'est-ce que ça implique. Et donc aujourd'hui les agents de ICE, ils portent des tenues d'imitation camouflage qui sont souvent dans les tons beiges. Et il se trouve aussi d'un point de vue personnel que donc j'ai pas grandi à Minneapolis. Mais j'y ai passé beaucoup de temps enfant parce que j'ai une bonne partie de ma famille qui habite là-bas. Et c'est une ville qui est extrêmement beige. C'est-à-dire que les murs des bâtiments sont beiges. Enfin, c'est une couleur omniprésente dans cette ville. Donc, dans mon esprit, il y avait tout ça qui se mélangeait. Et puis, sachant ce qui se passait et connaissant aussi ce que vivait ma famille, j'étais forcément amenée vers ce sujet-là, quoi.
Et donc, tu as interviewé des membres de ta famille,
exactement,
dont ta cousine Lily, qui fait partie de groupes de résistance sur place.
Oui.
Et Lara, je n'ai pas compris qui c'était par rapport à toi.
Lara, c'est également ma cousine.
Ok.
Donc voilà, j'ai plusieurs cousins-cousines, donc les tantes qui habitent encore à Minneapolis. Et donc, Lara, elle m'en a pas parlé, donc je ne sais pas à quel point elle a été active dans ce qui se passe actuellement. Mais Lily, j'ai d'autres témoignages qu'elle m'a envoyés. Et elle m'expliquait que notamment, étant donné que c'est une femme célibataire, elle ne peut pas marauder, puisqu'il faut être au moins 2 personnes pour des raisons de sécurité. Mais donc, elle a toujours son sifflet. Et moi, ça, c'est quelque chose que je savais déjà avant de faire le sujet. On en avait parlé pendant les fêtes. Comment ça va? J'ai un sifflet dans la rue pour annoncer quand les gars de ICE s'approchent des maisons de mes voisins. Bonne ambiance. Et donc, forcément, quand j'ai appris la mort de René Nicole Good, ça aurait pu être une de mes cousines, en fait. Mm. Et, Et puis au-delà de ça, il y avait tout ce que vivaient justement leurs voisins, les gens de leur communauté, les gens qui partagent leur vie au quotidien. Donc des gens qui n'ont pas une peau de couleur beige et qui sont du coup considérés comme des parasites.
Alors pour situer, Minneapolis est quand même un berceau démocrate. Ouais. Trump, lui, il cible vraiment des lieux très estampillés démocrates en fait pour faire ses rafles. Enfin, j'ai l'impression, ouais. C'est ce que j'ai lu. Et c'est l'endroit où il y a eu une forte protestation au moment de la mort de George Floyd.
En 2021,
et, voilà, tout à fait, où il y a le mouvement Black Lives Matter qui est né là-bas. Et donc, ça, c'est une ville qui est très engagée, justement.
Tout à fait. Alors, justement, dans mon sonore, on entend la voix de George Floyd. Je voulais faire aussi ce rapprochement, parce que c'est aussi ce qui, à l'issue de la mort de George Floyd, il y a déjà eu beaucoup de communautés, de gens, il y a une vie de quartier aux États-Unis et notamment à Minneapolis qui est très forte. On parle de communauté aux États-Unis. C'est ce nucléon, en fait, social dans lequel les gens s'investissent. Donc, ma cousine, notamment Lily, était déjà assez active à l'époque, après la mort de George Floyd, voilà, pour participer à aider les commerces locaux et à manifester. En fait, pour revenir sur pourquoi Minneapolis en particulier vit ça actuellement, il se trouve que Minneapolis, en dehors de la Somalie, c'est la plus grande population de Somaliens dans le monde. Et ça c'est une réalité qui a commencé il y a plus d'une vingtaine d'années. Pour des raisons économiques, étudiantines aussi, beaucoup d'étudiants qui venaient étudier à Minneapolis. J'ai pas pu utiliser son témoignage, mais j'ai une de mes tantes qui est maintenant à la retraite, qui était prof et qui encore aujourd'hui accompagne des jeunes Somaliens dans leur intégration dans la ville et dans leurs études. C'est une communauté qui est très présente à Minneapolis. Et il se trouve que parmi cette communauté, il y a deux personnes qui ont fait du détournement de fonds publics, des très très grandes sommes. Je crois que c'était l'année dernière, en tout cas le procès a eu lieu l'année dernière. Et c'est ce qui a incité M. Trump à se dire, tiens, il a été plus qu'insultant comme il sait très bien le faire, en disant que ces gens-là devaient rentrer chez eux et que de toute façon leur pays c'était...
De la merde.
Exactement. Ouais,
comme Haïti, c'est le même
Oui, ouais. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il a voulu faire rentrer ICE. Alors, ICE était déjà à Minneapolis, comme dans plein d'autres grandes villes, depuis plusieurs mois. Mais donc, depuis janvier, c'est pour ça qu'il y a des milliers d'agents ICE qui ont été envoyés là-bas.
En fait, moi, je lisais que depuis 2025, il y a eu une augmentation de 12 000 agents au sein de ICE, ce qui représente 120% d'augmentation d'agents dans cette corporation. Donc, c'est quand même énorme. Et j'ai essayé de faire quelques petites recherches par rapport au lien, la question du droit des femmes, parce que la question de l'exil, le droit des étrangers est très forte, mais forcément, la question des femmes rentre en compte aussi. Et il y a eu des épisodes qui ont été relatés plusieurs fois de jeunes femmes qui allaitaient leur enfant, qui se faisaient arrêter à ce moment-là, qui se faisaient séparer de leur enfant, qui ont
d'enfants
arrêtés, tout à fait. D'autres qui n'ont pas eu de soins adéquats, mais tout le monde d'ailleurs, hein, pas que des femmes enceintes, mais notamment des femmes enceintes qui ont perdu leur enfant par rapport à un manque de soins. C'est quand même.
Alors ça, c'est une réalité, notamment en fait. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ICE rafle les gens. Donc, comme on l'a entendu, ce qu'explique Lily, c'est qu'aujourd'hui, ICE a été soi-disant retiré de la ville, ce qui n'est effectivement pas le cas. Ils ont diminué les effectifs, ils ont changé l'homme à la tête du ICE. D'ailleurs, j'invite juste les gens à aller voir la tête du gars. On dirait vraiment qu'il a une tenue vraiment SS. Enfin,
ah ouais, ouais.
J'ai oublié son nom, Romano, je sais
plus. Ne le cite pas,
on s'en fout.
C'est un connard.
Ah, ouais, complètement. Mais donc, l'idée, c'est que leur mission... si on peut l'appeler comme ça, c'est de rafler les gens donc dans la rue. Et donc, maintenant qu'ils ont diminué les effectifs, ils prennent la liberté de les rafler chez eux, sans mandat. D'où l'histoire de ce monsieur qui est raflé en petite tenue, quoi, chez lui, par moins 30 degrés. Et il les envoie dans ce Whipple Center, qui est le centre de détention principal du Minnesota. Et ensuite, il les dispatche dans d'autres centres de détention. Et le grand centre principal, il est au Texas. Et c'est notamment dans ce centre-là qui est... Donc, ces centres-là sont souvent tenus par... Whipple Center, c'est fédéral, mais au Texas et dans d'autres grands centres comme celui-ci, on est sur des... comme dans les prisons américaines, en fait, des centres qui sont tenus par des sociétés privées. Et donc, il n'y a effectivement pas, voire peu, voire peu, pas de soins. Et donc, effectivement, on a des cas de malnutrition, on a des cas de comme tu dis, peut-être... Je ne sais pas s'il y a eu des... Enfin, je te crois quand tu me dis qu'il y a eu des femmes qui ont perdu leurs enfants, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a des gens qui vivent des situations sanitaires très graves. Et le, là où ça peut aller encore plus dans l'horreur, je me permets juste de citer un article que j'ai lu dans un magazine très sérieux qui s'appelle le New Yorker, magazine qui est connu à l'international et qui a dans son, un de ses numéros du mois de décembre, une journaliste expliquait que les gens qui sont ensuite déportés sont déportés par groupe de 15-20 personnes dans un autre camp n'importe où à l'étranger. Alors en fait, il y a des accords entre les États-Unis et certains pays d'Afrique et certains pays d'Amérique du Sud. Et ces groupes-là, en fait, on ne se soucie pas de connaître leurs origines. Donc on peut avoir des Haïtiens, des Nicaraguayens, des Vietnamiens qui se retrouvent en Guinée. Et là, on les perd de vue. Et donc ça, ça fait depuis que Trump est revenu au pouvoir qu'on a des milliers et des milliers de personnes, dont certains sont américains d'ailleurs, ou étaient en train de demander leur nationalisation, donc dans des processus tout à fait acceptables.
Ou travailler tout simplement.
Des années, et voilà, et sont déportés de manière aléatoire, sans avoir de contact avec leur famille, et sans qu'on, et en fait on les perd de vue. Même les avocats qui s'occupent d'eux, parfois les perdent de vue. Et ensuite, parfois, sont même déplacés de pays en pays. Donc voilà, sans aucun lien avec leur propre culture, avec leur langue, avec tout ça. Donc on est vraiment dans un système de déportation, clairement.
Ouais. Tu as travaillé à FIP en tant qu'interprète. Du coup, on a la chance d'entendre. On entend de l'anglais. C'est assez rare en radio d'entendre une langue étrangère. Donc, il y a certains propos qui sont entièrement traduits. D'autres, j'ai l'impression qu'ils sont pas tout à fait traduits. En fait, t'expliques un petit peu comment ça se passe la traduction en radio.
Ah, en radio, tu peux commencer à parler, par exemple. Je te fais une petite.
Ouais, alors je parle. Bah là, je parle français parce que je ne parle pas de langue étrangère.
No, I'm speaking French because I don't speak any foreign languages.
Et du coup, donc
as I'm speaking, you can translate directly.
Tu fais ça tellement bien. Tu fais ça tellement bien. C'est génial.
Voilà. Donc ça, c'était effectivement ce que je faisais chez FIP pendant à peu près une dizaine d'années. À chaque fois qu'il y avait des artistes anglophones, donc j'ai eu la chance de rencontrer plein de super artistes de partout dans le monde.
Ouais, ok.
Avec les super équipes de FIP que je salue du coup s'ils écoutent le TFM ce soir.
Et est-ce qu'il y a d'autres manières, par exemple dans des formats plus longs comme le documentaire, de traduire mais sans forcément faire du mot à mot ?
Honnêtement, moi, je ne l'ai jamais fait. Il se trouve que je me suis retrouvée chez FIP, entre guillemets, un peu par hasard et que ça a collé. Donc, ils ont fait appel à moi pendant presque 10 ans. Et puis, j'ai quitté la région parisienne, donc ils font appel à moi, mais je ne suis plus dispo. mais c'est là, justement, c'est un hyper intéressant pour moi de travailler le montage autour de ça. Et donc, je me suis posé la question, est-ce que je traduis directement ? Mais comme j'ai décidé de faire parler des gens, notamment de ma famille, sur un sujet qui me tenait à cœur, qui me touchait intimement, mine de rien, j'ai plutôt eu envie de créer une sorte de dialogue. Donc, mes traductions, elles ne sont pas littérales. Bon, on ne fait jamais de traduction littérale, mais elles ne sont pas
mot à mot. Immédiates.
Voilà, j'ai essayé de laisser un peu d'espace parce que je trouvais que ce qu'elle disait était relativement compréhensible. Je l'ai testé sur des personnes pour savoir si c'était vraiment ou pas du tout. Mais oui, j'avais plus envie de créer un dialogue. Donc je réinterprète ce qu'elles disent. Pour le coup, je ne traduis pas littéralement ce qu'elles disent.
Ouais, mais c'est agréable en fait. Ça laisse vraiment, même si on ne comprend pas tout, ça laisse le temps d'entendre.
Ce que j'ai essayé du coup, c'est de choper, tu vois, des mots, de reprendre des mots. Tu vois, elle dit Whipple Center, bah faut expliquer ce que c'est et de mettre un peu de contexte. Mais je m'éloigne pas du sens. Donc c'était important de pas s'éloigner du sens.
Bien, merci beaucoup pour ce sujet.
Merci à vous.
Très important et voilà, c'est dur d'enchaîner après ça.
La musique perle qu'on va entendre.
Ah ouais. Ah ouais, ça me touche vachement. Ce sujet, vous avez compris que pour moi, il n'a pas été hyper facile à réaliser parce que c'est beaucoup d'émotions et voilà. Et il se trouve que pendant que j'écrivais ce sujet, j'ai découvert qu'une copine de lycée, qui s'appelle Villemain, avait sorti un EP. Et donc, je suis allée écouter les morceaux de cet EP et ça m'a fait un bien fou. Donc, entre des sessions de travail, j'écoutais cette musique pour me libérer un peu. Donc j'espère que ça va vous faire le même effet.
Cool.
Thank you.
Nous sommes les Détricoteuses et vous écoutez notre émission sur le mot beige. On est ensemble et on va écouter la troisième création de l'émission de ce soir qui a été réalisée par Jordan, qui est à Valence, dans la Drôme, d'une radio associative qui s'appelle Radio Méga et qui nous a envoyé son sujet à distance et qui n'est pas là donc ce soir, mais on l'embrasse.
On salue les gens, tous les gens de Valence sur Radio Méga parce que... Ouh là là, pardon, ça va être compliqué là. Parce que les Détricoteuses sont aussi diffusées sur Radio Méga.
Oui. Et c'est vrai qu'on ne le dit pas assez.
On ne le dit pas suffisamment. Bonjour Valence.
J'en ai marre qu'on m'appelle brun clair ou blé doré. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis beige. Et fière de l'être. Et j'en ai marre aussi de passer après un monsieur crayon marron. Ce n'est pas juste que les ours, les poneys et les petits chiens aillent à crayon marron.
Berne, je crève.
Il ne me reste que la dinde de Noël et encore.
Beige, 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 beige.
Et le blé?
Beige.
Sincèrement, as-tu déjà vu un enfant s'éclater en coloriant du blé? Il faut qu'on parle. Ton ami, beige.
Beige.
Crayon.
Beige. 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 Beige.
Je suis peut-être une beige même après tout. Vous pouvez appliquer mes principes sans aimer le beige. Suis-je une beige même? Bon, alors c'est sûr, hein. Mais faisons là. Je suis en beige. Et je suis en beige, suis en beige, et je suis en beige, beige, j'ai.
Bonsoir Nadine. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je pourrais te poser la même question. Alors je vais te le dire. J'ai tous les nouveaux rideaux qui sont prêts pour la maison. Ed me les a offerts ce matin, il les a achetés chez Ben et Jim. Et on les a installés tous les deux ensemble. Ils sont d'un joli beige.
Beige. Beige. Beige.
Voilà, nous revoilà. Merci Jordan pour ta super créa.
On a ri.
Ah, ça fait du bien.
Ouais. Elle s'est éclatée, Jordan. Donc, je lui ai demandé ce qui l'avait inspiré. Alors, elle m'a envoyé des petits messages et j'ai fait un petit montage. Elle m'a confié détester le beige. Donc voilà, elle fait partie des nombreux haters du beige. qu'est-ce qu'il a lancé dans cette créa et voilà, qu'est-ce qu'elle nous a répondu?
J'y suis allée pas mal au feeling. J'avais déjà quelques idées quand même que j'avais glanées de ci, de là. J'ai commencé par un morceau d'un groupe qui s'appelle Exploded View, qui est mené par une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Annika Anderson. Et donc, ce morceau s'appelle Beige. Et du coup, bah, j'ai trouvé que c'était vraiment parfait pour cette petite création sonore. Je l'ai mis donc, en début de créa et après, je l'ai mis à l'envers. Je l'ai fait jouer à l'envers quand commence la lecture par ma fille qui s'appelle Zola. Zola Arnoux, qui a bientôt, dans quelques mois, qui aura 9 ans. Et qui a hérité de ce livre, Rébellion chez les crayons, de Drew Walt. De son frère Jasmin, qui adorait ce bouquin. Et moi, j'ai toujours adoré leur lire ce livre. C'est l'histoire, en fait, d'une boîte de crayons qui écrivent tour à tour à leur propriétaire, Duncan, et qui, en fait, ont toute une série de doléances à lui porter. Et donc, Beige, voilà, ses doléances, c'est, il en a marre de toujours colorier les mêmes choses. En fait, ça questionne aussi la place qu'on occupe dans la société, et suivant la couleur qu'on a et comment on nous utilise ou comment on nous laisse de côté, c'est comment on nous considère. C'est quand même une sorte de métaphore de la société, je trouve, dans cette société de crayons qui ont chacun leurs revendications. J'aime vraiment beaucoup ce livre. L'exercice lui a beaucoup plu et après, je lui ai fait faire des petits cris, différentes manières de dire beige en bêlant et puis aussi en le transformant en burk, en faisant un beige burk. Beige-urk. Enfin voilà, elle s'est même sortie tout seule à la fin de la lecture. En fait, elle s'est lancée dans un petit cri que j'ai gardé, qui était vraiment cool, qui était hyper à propos.
Et oui, qui était hyper à propos de ta détestation du beige, Jordan, on a bien compris. Alors, je lui ai demandé aussi de nous parler des beige moms.
Ah oui,
grand sujet.
Angoisse. Et il y a quoi d'autre? Il y a cette beige mom que j'ai trouvé sur les Instagram. Je ne me rappelle plus le nom de son compte parce que je ne la follow pas réellement. En fait, elle a fait cette petite vidéo parce qu'elle se fait attaquer par des personnes qui lui disent « Ah, mais t'es une beige mum. » Sous-entendu, t'es un peu une mum insipide. C'est hyper jugeant parce que chez elle, effectivement... Alors bon, c'est vraiment quand même la thématique de son compte. Chez elle, tout est blanc ou beige, vraiment. Hyper couleur crème, clair, c'est son délire. Mais elle se fait attaquer par des personnes qui lui disent « Ouais, en fait, il n'y a aucune couleur dans ta vie, mais qu'est-ce que c'est triste ?» Bon, voilà, donc c'est... moi, ce n'est pas du tout l'idée, hein. C'était détourner le truc et puis en faire un petit truc un peu... qui va à contre-pied, quoi. Parce qu'après tout, elle a bien le droit d'aimer le beige et d'avoir une maison toute en beige, hein, ça la regarde. Personne n'a rien à dire là-dessus. Mais bon, a priori, les beige mums, c'est un peu des nanas, effectivement, qu'on catégorise et qu'on met dans des petites cases de... insipides, quoi, fadas. En fait, je me suis rendu compte aussi qu'il y a une forme de féminisme qu'on appelle le féminisme blanc ou beige et qui consisterait, effectivement, à être un féminisme un peu mou, pas très engagé, avec peu de conviction. J'ai raccroché mes petits wagons comme ça avec le train aussi qu'on entend dans cette petite création sonore.
Marjo, qu'est-ce que tu penses des beige mums?
Non, mais alors, je suis d'accord, on n'est pas là pour juger, donner un jugement de valeur. Mais les beige mums, c'est un vrai mouvement, en fait, de personnes qui revendiquent le fait... donc là, je ne parle pas de la personne dont elle parle dans son sujet, mais qui revendiquent une absence de couleur pour ne pas trop stimuler les enfants, parce que les jouets, toutes les choses qui sont liées à l'enfance sont très colorées. Et du coup, elles estiment que c'est une manière de trop stimuler l'enfant. Et donc, elles préfèrent aseptiser l'environnement et partir du principe qu'il ne faut pas trop les sursolliciter sensoriellement en parlant. Je ne sais pas si je parle français.
J'ai l'impression que ça te choque.
Ah oui, excusez-moi. Moi, c'est une manière. En fait, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Bon, je reprends les mots de Jennifer Padgemi, mais ce truc d'aseptiser, eugéniste, rendre neutre les choses. Pour moi, il y a quand même une forme d'effacer les couleurs. On s'entend.
Ouais, moi, ça me fait penser. Moi, mon fils, quand il avait 4 ans, en fait, dans son école, donc il avait des camarades de classe. Et un jour, il est revenu et puis on discutait et puis il me disait, lui était beige marron. Lui, il était marron clair, marron foncé, et lui, il était beige. Puis il y avait aussi des beiges rosés.
Ah ouais.
Et
c'est
en
trop
fait,
mignon.
Mais ouais, mais c'était à la fois mignon et à la fois je me disais, j'ai vraiment la preuve que le racisme blanc-noir, c'est une construction, quoi. Dans son regard, on ne pouvait pas faire deux groupes dans la classe.
Et en même temps, il ne faut pas être colorblind, comme disent les Américains, pour revenir à eux. Mmh. C'est important aussi de prendre conscience de la différence de vécu des personnes selon leur couleur de peau. Mais le truc sur les beige moms, moi, c'est ce que j'avais aussi entendu. Alors, je ne sais pas si tu as la même nuance, c'est que c'est quand même apparemment lié à une forme d'angoisse de on veut protéger notre enfant de tout l'ensemble de ce qui se passe à l'extérieur, quoi, de toute la violence de ce monde. Enfin, ça va un petit peu au-delà que simplement la couleur. Et je voyais des vidéos de mamans qui achètent du coup des trucs, bon, je vais pas donner de marque, quoi, tu vois, mais des jouets en plastoc et qui les repeignent en beige. Et qui te font, voilà, qui te font la vidéo de ça, quoi. C'est... Moi, ça m'angoisse, perso.
Moi aussi.
Et... Ah non, tu voulais rajouter un truc, Val ?
Pas du tout, j'essayais de dire discrètement qu'il fallait enchaîner, nous allons manquer de temps.
Alors, je vais demander...
Pour avoir le temps d'écouter Jordan nous parler de...
Ben oui.
Rock à la Casbah,
oui,
notamment.
Oui. Alors, c'est très important, je lui ai demandé de nous parler de son émission Rock à la Casbah et de sa radio, et donc tu vas pas être déçue, Marjo.
Ça fait faire 15 ans ouais, que je suis dans l'équipe de Rock à la Casbah, une émission musicale qui s'intéresse au rock, au punk, au garage, aussi un peu à l'électro-rock. Enfin voilà, c'est vraiment le rock dans toute sa diversité, toute sa richesse et tous ses courants. Donc on se met pas trop de limites. Je prends le soin de choisir des groupes féminins ou en tout cas de minorités de genre. J'ai vraiment cette démarche, d'ailleurs, pour aller dans ce sens-là, je fais partie de la commission égalité de la FERAROC, la Fédération de radio associative dont Radio Méga fait partie. Radio Méga, c'est donc la radio dans laquelle est produite Rock à la Casbah. On est rediffusé sur presque 80 radios entre la France, la Belgique, la Suisse. On est diffusé en Corse, en Guyane française, au nord du Canada, au Québec, à Montréal, sur CISM. Et on est vraiment hyper content, en fait, chaque semaine on fait cette émission, on est hyper content d'être rediffusé sur toutes ces radios. Ça veut vraiment dire quelque chose pour nous. Et c'est vrai que pour moi, voilà, de choisir et de mettre en avant des groupes féminins régulièrement, c'est important. Et avec la FERAROC, on est en train de développer un outil de repérage de groupes féminins qu'on espère, qu'il verra le jour dans quelques mois ou peut-être dans quelques années, je ne sais pas. En tout cas, on planche dessus et on met de côté, on référence des groupes féminins qui nous tapent dans l'oreille, ou en tout cas de minorités de genre aussi. Et voilà, ça c'est important pour nous.
Voilà, donc en fait, ils sont quatre dans l'émission, quatre, et il y a une personne à Paris qui fait toute la com, tous les réseaux sociaux. Enfin bref.
Je suis un peu jalouse. J'aimerais bien que cette personne sous-traite pour nous parce que.
Il faudrait préciser que Rock à la Casbah est diffusé sur Jet FM.
Et que Jet FM fait partie de la FERAROC aussi.
Et que Jet FM fait partie de la FERAROC.
Exactement. Non, mais c'est pas tout est lié en fait. Mais quand est-ce que Rock à la Casbah passe sur Jet FM ?
Je crois que c'est le mercredi à 19h, mais comme j'ai un petit doute, je n'en parlais pas.
En tout cas, non mais super, super radio, enfin super émission de radio à suivre quoi.
Yes.
À suivre.
Yes. Mais venez à Nantes, on fait un crossover de détricoteuses et Rock à la Casbah.
Voilà, donc ils sont spécialisés musique comme vous avez pu l'entendre et donc elle a choisi la dernière musique. Mais avant ça, nous allons parler actu. Actu du mois de
les
mars.
Les actus, 8 mars.
8 mars.
Journée internationale des droits des femmes. Et donc pour le 8 mars à Nantes, moi je vais juste vous parler du FURI, donc féministe unie pour une riposte intersectionnelle, qui propose une journée, une grève féministe et une convergence des luttes. Donc pour ils ont créé une zone d'occupation féministe. À Bouffay, ils vont créer dimanche à 16h avec le départ d'une marche. Il y aura des temps d'échange, etc. Et donc, c'est un collectif qui lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination raciste, classiste, validiste, LGBTQIA, phobe, sérophobe, agiste, grossophobie, islamophobie, blablabla. Voilà.
C'est pas des féministes belges.
Ce ne sont pas du tout des féministes belges. Et donc, que je vous donne les bonnes infos. Midi 15h, parvis de Neptune. Alors, je ne sais pas exactement où c'est. Et 15h et 16h, manif et discours à Bouffay. J'explique super mal. Bon, 8 mars, quoi. Allez à Bouffay le 8 mars.
Et le 7 mars, rassemblement Place Royale à 16h, Femmes, Vie, Liberté contre la guerre en Iran. Samedi 7 mars. Place Royale à 16h.
Est-ce qu'on a le temps pour d'autres actus pas complètement féministes, mais un petit peu quand même?
On a le temps.
C'est ça, Marjo? Non, j'ai pas de concert. Mais Double C, qu'on aime, rappeuse nantaise, fait une release party aux Impertinentes le 7, donc c'est samedi. Ce samedi, à 21h.
Ouais.
Voilà ce que je peux dire. Et le TU que j'aime et que j'adore, scène nouvelle création, fait son festival idéal, donc qui mêle science et théâtre, enfin et spectacle vivant, du 16 au 28 mars. Donc c'est au TU, mais aussi il y a des choses qui vont être diffusées au LU, dans d'autres lieux. Donc n'hésitez pas à regarder la prog. Et il y aura notamment Que la machine vive en moi de Roman Nicolas, qui passera le 18 et 19 mars au TU et qui met trois artistes queer en scène et une IA dans la même salle, et elle crée un film et du son en temps réel.
Wow.
Et de ce que j'ai compris, je crois que la pièce n'est pas la même d'un jour sur l'autre, puisqu'il y a toute une performance. Donc voilà, idéal, le TU, le festival. Go se renseigner.
Vous retrouverez, parce que j'ai des indics par téléphone, donc Rock à la Casbah, c'est bien le mercredi soir à 19h sur JTFM. On embrasse Radio Méga, Tout Valence,
Julie.
Julie, bien entendu.
On dirait que t'as un prompteur. Alors, Tout Valence, oui, j'ai bien lu.
Elle est dure. Je me tais. Marie-Claude va conclure.
Ça va, c'est parlé, Valentine.
Va, je te...
Oh là. Ça,
elle me fait un doigt derrière la vitre. Bon, là, je crois que c'est mort. C'est mort, là. On a perdu Valentine. Oui, donc Julie, on t'embrasse très fort. Nous pensons à toi.
Moi.
Et qu'est-ce que vous faites pour le 8 mars? Il nous reste quelques secondes.
Bah, manif.
Non, moi, je vais faire un barbecue. Voilà, avec mon mec et mes voisins. Non, je pensais peut-être faire une manif aussi, peut-être aller marcher avec des copines en soutien à une sage-femme dont j'ai entendu parler. Voilà, j'essaie de faire ça.
Moi, je vais faire du twerk. Demain, à Trampo, ça va être super. Voilà.
C'est ta façon de manifester.
C'est ma façon de manifester, tout à fait. Avec Patricia Badin, qui est spécialiste du twerk en France. Carte blanche, faste et furieuse. Les DJettes, collectif de DJettes, très active sur Nantes.
Ouais.
Voilà, peut-être qu'il reste de la place.
Est-ce que je peux juste mentionner, parce que j'ai oublié tout à l'heure, que la chanson que j'ai utilisée s'appelle Chiffon, de Fan Deru, qui est une amie aussi chanteuse et qui va faire des concerts à la fin du mois.
Justement, on n'a pas la date.
Info en exclusivité, parce qu'il se trouve que je connais Fan aussi. Si jamais vous êtes en train de nous écouter en direct et que vous êtes à Pornic, cherchez tout de suite, parce que là, elle monte sur scène, là. Littéralement, avec un projet très féministe et très engagé et très joli. Duo contrebasse et piano. Et chant, bien sûr.
Eh bien, en parlant de musique, on va finir en musique avec une suggestion de Jordan, justement. Et ça s'appelle Music to Death de Hildegarde.